Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans cette biographie monumentale, Andrew Roberts retrace l'existence de Winston Churchill, de son enfance aristocratique à sa mort en 1965, en accordant une place centrale à son rôle de premier ministre britannique durant la Seconde Guerre mondiale. Il ne s'agit pas d'un essai limité à l'année 1940, ni d'une célébration hagiographique. L'ouvrage examine la formation intellectuelle, les ambitions, les erreurs, les convictions impériales et les ressorts affectifs d'un homme qui a traversé les principaux conflits et débats de son siècle. Roberts s'appuie sur une documentation très vaste, enrichie de sources alors peu ou pas exploitées, notamment les journaux de guerre de George VI, des correspondances et des archives liées au cabinet de guerre. Son objectif est de replacer les décisions de Churchill dans leurs contraintes institutionnelles, militaires et personnelles. Le livre propose ainsi une lecture à la fois politique et psychologique de son sujet. Il cherche à expliquer comment un dirigeant souvent contesté, parfois imprudent, a pu devenir, dans la crise de 1940, l'incarnation de la résistance britannique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, des sources inédites pour renouveler une biographie déjà abondante. L'enjeu initial de Churchill est méthodologique: comment écrire utilement sur un homme auquel plus d'un millier de biographies ont déjà été consacrées. Roberts répond par un retour rigoureux aux archives et par l'intégration de matériaux nouvellement accessibles ou jusqu'alors insuffisamment exploités. Les journaux du roi George VI, qui consignent notamment ses rencontres régulières avec le Premier ministre pendant la guerre, apportent un regard institutionnel et personnel sur Churchill. Les documents du cabinet de guerre, les lettres et d'autres témoignages permettent également de comparer l'image publique soigneusement construite par Churchill avec les discussions, hésitations et frictions qui précèdent les décisions. Cette richesse documentaire ne sert pas seulement à ajouter des anecdotes. Elle permet de tester des récits établis, de nuancer certaines légendes et de situer les choix du dirigeant dans un processus collectif. Roberts montre que Churchill n'agit jamais dans un vide politique. Il doit composer avec le roi, ses ministres, les chefs militaires, le parlement, l'opinion et les alliés. Cette approche est particulièrement importante pour éviter deux simplifications opposées: réduire Churchill à ses discours ou le présenter comme l'unique artisan de la victoire. La biographie conserve l'importance exceptionnelle de son rôle, tout en rendant visibles les institutions et les personnes qui encadrent son pouvoir. Son originalité tient donc autant à la qualité des sources qu'à leur usage pour reconstruire les mécanismes concrets du gouvernement en temps de crise. Deuxièmement, la formation d'un tempérament politique ambition, mémoire familiale et confiance en soi. Roberts accorde une attention suivie aux années antérieures à 1940, car elles expliquent en grande partie la manière dont Churchill exerce le pouvoir lorsque survient la guerre. Issu de l'aristocratie britannique, marqué par la distance de sa mère et par la figure exigeante de son père, Lord Randolph Churchill, il développe très tôt une ambition hors norme. Le livre relie avec prudence ce besoin de reconnaissance à son énergie publique, à son goût pour l'écriture et à sa volonté de laisser une trace dans l'histoire. Churchill n'est pas seulement un homme politique, il est aussi soldat, journaliste, historien et auteur, activité qui lui procure réputation, revenus et une vision très élaborée de sa propre mission. Cette construction personnelle nourrit des qualités utiles: endurance, capacité de travail, éloquence, assurance dans l'adversité, mais aussi des défauts récurrents. Churchill peut se montrer impétueux, attiré par l'action directe et peu disposé à se conformer à la vie majoritaire. Roberts ne traite pas ses traits comme des ornements psychologiques, ils éclairent des choix politiques, des changements de parti, des conflits avec ses collègues et son goût pour les opérations audacieuses. L'ouvrage insiste ainsi sur une tension constitutive. La confiance qui lui permet de résister à la pression en 1940 est proche de celle qui, à d'autres moments, la conduit à sous-estimer les objections ou les risques. Comprendre Churchill suppose donc de considérer ensemble son extraordinaire volonté et sa vulnérabilité au jugement trop personnel. Troisièmement, 1940, diriger la résistance britannique sans masquer les contraintes stratégiques. Le cœur du livre réside dans l'analyse du leadership de Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale, surtout au moment où la défaite de la France laisse le Royaume-Uni face à l'Allemagne nazie. Roberts met en évidence la fonction politique de Churchill: maintenir la résolution d'un pays exposé au bombardement, empêcher qu'une paix de compromis ne s'impose et inscrire la survie britannique dans une stratégie alliée de long terme. Ses discours jouent ici un rôle réel, non comme de simples performances littéraires, mais comme des instruments destinés à nommer le danger, soutenir le moral national et donner une forme intelligible aux sacrifices demandés à la population. Toutefois, la biographie ne ramène pas la conduite de guerre à l'éloquence. Churchill travaille au contact permanent des rapports militaires, des chefs d'état-major et des alliés. Robert souligne son aptitude à saisir l'ensemble du théâtre mondial, à poser de nombreuses questions techniques et à intervenir avec une intensité inhabituelle. Cette énergie est productive lorsqu'elle accélère une décision ou stimule l'administration. Elle peut devenir problématique lorsqu'elle se transforme en pression sur les responsables militaires ou en enthousiasme pour des projets hasardeux. Le livre fait donc de 1940 un cas de leadership sous contrainte. Churchill ne dispose pas de ressources illimitées et ne contrôle pas seul les événements. Mais son refus de considérer la capitulation comme inévitable modifie le cadre dans lequel les décisions britanniques deviennent possibles. Sa singularité est d'avoir allié vision stratégique, communication et présence personnelle. Quatrièmement, le rapport à l'Empire et les limites d'un héros démocratique, Roberts présente Churchill comme un défenseur profond et constant de l'Empire britannique. Cette conviction n'est pas marginale dans son parcours, elle structure sa conception de la puissance, de l'ordre mondial et du rang international du Royaume-Uni. Pour Churchill, l'histoire nationale, la marine, les territoires impériaux et la continuité des institutions britanniques forment un ensemble qu'il entend préserver. Cette vision contribue à son interprétation de la guerre contre l'Allemagne nazie comme un combat de civilisation. Mais elle révèle aussi les limites de son univers politique face aux aspirations anticoloniales et à la transformation du monde après 1945. L'intérêt de la biographie est de ne pas séparer artificiellement les vertus de guerre de ses positions contestables. Un lecteur peut admirer la détermination de Churchill contre Hitler tout en examinant de manière critique ses hiérarchies impériales. Son conservatisme social ou ses jugements parfois très durs sur des peuples et des adversaires. Roberts cherche à corriger les accusations qu'il juge insuffisamment fondées ou anachroniques, sans soutenir que son sujet est exempt de responsabilité ou d'aveuglement. Cette distinction est essentielle, une biographie sérieuse ne consiste ni à déboulonner mécaniquement une figure historique, ni à la soustraire au jugement. Elle doit établir les faits, replacer les opinions dans leur contexte et mesurer leurs conséquences. Churchill apparaît ainsi comme un défenseur déterminé de la démocratie britannique contre le nazisme, mais non comme un représentant sans réserve des valeurs démocratiques contemporaines dans toutes les dimensions de sa politique impériale. En dernier lieu, l'homme derrière le monument émotion, sociabilité et rapport conscient à l'histoire. L'un des apports les plus marquants de Roberts est de restituer Churchill comme une personnalité émotionnelle et relationnelle, plutôt que comme une statue de bronze ou une simple machine politique. La biographie relève sa capacité de travail, son goût pour le champagne et les alcools, son humour dans les circonstances les plus sombres, mais aussi ses larmes fréquentes et son attachement à ses proches. Ces éléments n'ont pas pour fonction de réduire l'analyse au pittoresque. Ils aident à comprendre un chef dont la présence physique, la conversation et l'intensité affective pouvaient galvaniser son entourage tout en épuisant certains collaborateurs. Les relations avec les chefs militaires et les partenaires alliés occupent une place importante dans cette perspective. Churchill peut inspirer une admiration profonde chez des interlocuteurs qui perçoivent son énergie et son sens de l'urgence, tout en suscitant de vives critiques chez ceux qui doivent tempérer ses initiatives. Roberts exploite notamment ce contraste pour montrer que le leadership n'est pas une qualité abstraite, il se manifeste dans des échanges répétés, des désaccords, des compromis et une capacité à préserver des coopérations indispensables. Enfin, Churchill se pense constamment dans le temps long. Son activité d'historien, son invocation des précédents britanniques et sa conscience de parler pour la postérité façonnent ses choix et son langage. Cette conscience historique peut renforcer sa clairvoyance et son courage. Elle peut aussi encourager une vision théâtrale de son propre destin. Le livre tient ensemble ces deux dimensions sans les confondre. En conclusion, Churchill s'adresse d'abord au lecteur qui souhaite comprendre Winston Churchill au-delà de l'icône de 1940 étudiant en histoire, amateur de biographie politique. Lecteur, intéressé par la conduite de guerre et par les institutions britanniques, y trouveront une synthèse particulièrement nourrie. L'ouvrage est également utile à qui étudie le leadership, à condition de ne pas y chercher un manuel de management transposable. Son apport est plus exigeant, il montre qu'une décision publique dépend de la personnalité du dirigeant, mais aussi de l'information disponible, des débats entre conseillers, des rapports de force alliés et de la capacité à mobiliser une société sous pression. Sa longueur peut décourager les lecteurs en quête d'une introduction rapide. Elle correspond néanmoins à son ambition de couvrir une carrière qui précède largement la Seconde Guerre mondiale et dont les contradictions ne peuvent être comprises à partir des seuls discours de guerre. Par rapport à de nombreuses biographies de Churchill, Robert se distingue par l'accès à des archives importantes, par une narration ample et par sa volonté de relier l'étude du caractère à l'analyse des choix stratégiques et politiques. Il refuse en principe la géographie, tout en défendant fermement l'importance historique de son sujet contre des critiques qu'il estime mal étayées. Cette orientation pourra paraître favorable à Churchill à certains lecteurs. Elle a au moins le mérite de rendre explicite le débat historiographique. Le résultat est une biographie de référence en un volume dense, documenté et capable de faire apparaître simultanément le dirigeant de guerre, l'homme privé, l'impérialiste et l'auteur conscient de sa postérité. Si vous souhaitez soutenir Andrew Roberts, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.